chronique, c'est pas comme quand je commence un dessin. Quand je commence un dessin, j'ai l'idée, je sais exactement ce que je vais dessiner. Quand je commence une chronique, parfois, et c'était le cas pour On n'est pas rentré, où il m'arrivait d'écrire ma chronique le matin, je pouvais partir d'une feuille blanche et je sortais une phrase, et puis le reste venait petit à petit. Et ça, c'est assez intéressant à faire.
Sérieux délire.
La première.
16h-17h30.
Sérieux délire.
Nicolas Vado, qui est notre invité dans Sérieux Délire. Nicolas Vado, vice-président de Cartooning for Peace. On va essayer d'être un tout petit peu sérieux maintenant, même si le dessin fait souvent rire. Je voudrais qu'on écoute une interview de Plantu, qui est le président de cette association. C'était une interview accordée à France Culture.
Et Plantu, bonjour Plantu, vous êtes dessinateur au monde et vous êtes le fondateur de Cartooning for Peace. Cartooning for Peace, pouvez-vous nous présenter en quoi cela consiste ?
Ah ben, ça a juste 10 ans, parce que vous vous souvenez, au moment des fatwas contre les dessinateurs danois, et on s'est rendu compte que d'abord leur vie était, je suis allé les voir à Copenhague, c'était infernal. Il y en a, je rappelle qu'il y en a un, 3 fois, ils ont essayé de le tuer à la hache, que sa salle de bain a été transformée en bunker maintenant. Il est gardé par plein de policiers. Et que je me suis rendu compte... D'abord, je ne savais pas que le portrait de Mahomet était considéré comme un blasphème. Et donc, du coup, on s'est posé des questions avec Kofi Annan quand il était secrétaire général de l'ONU. Et on s'est dit, tiens, on pourrait... Ça faisait plusieurs fois qu'on disait on voudrait réunir des dessinateurs du monde entier pour parler de la responsabilité éditoriale de nos images. Et puis on s'est dit, ben voilà, c'est peut-être le bon moment. Et donc, on a fait venir des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, voilà, pour essayer de... Et je ne savais pas que je mettais le doigt dans un engrenage qui s'appelait Cartooning for Peace, dessin pour la paix, et que pendant qu'on n'arrêterait pas d'aller dans les écoles pour justement voir des gamins. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Rhys l'autre jour.
Rhys de Charlie Hebdo.
Le directeur de Charlie Hebdo, qui, dans les écoles, depuis janvier, par exemple, mais nous, on fait ça depuis 10 ans, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème et qu'il y a plein de gamins, et des adultes aussi, mais des gamins, qui ne comprennent pas forcément les images et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'autocensure, qu'est-ce que c'est qu'une ligne rouge. Et on a maintenant des enfants, là, il n'y a pas très longtemps, à Marseille ou en Seine-Saint-Denis, qui sont pas du tout Charlie, et qui disent ils sont morts et ils l'ont bien cherché, c'est bien fait. Et donc, le boulot est considérable et je salue le travail des professeurs qui ont un boulot considérable pour au moins les 10 ans qui viennent.
Interview de Plantu en 2015, accordée à France Culture. Est-ce que vous pensez que ça a changé aujourd'hui ?
Ce qui, là, non, a pas du tout changé. Et on va beaucoup dans les écoles, moi le premier. Et c'est très intéressant, c'est assez interpellant parce que, par exemple, je suis allé au mois de mai en Seine-Saint-Denis, dans des écoles difficiles. Et quand vous avez devant vous des enfants qui ont, enfin des ados qui ont 14 ans et qui vous disent, en effet, ce que dit Plantu ici, et qui vous disent ensuite, de toute façon, on sait très bien que les Juifs dirigent le monde, c'est prouvé. Vous vous dites qu'il y a quand même énormément de chemin à parcourir. Et c'est vrai que nos dessins ne sont pas forcément compris de la même manière partout. Donc il y a un travail d'éducation à l'image qui est très important. Et aussi, ils ont le droit de ne pas être Charlie. C'est un truc que je leur dis, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et vous avez le droit de le dire, vous avez le devoir de le dire si vous êtes d'accord, mais sans vous taper dessus. Et ça, c'est très important parce que quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo et les manifs après, où il y avait ce hashtag « Je suis Charlie », les gens ont compris ça de travers. Ils ont cru qu'ils devaient aimer Charlie Hebdo. Moi, j'aime pas Charlie Hebdo. Je trouve que c'est un journal réac, c'est un journal de vieux cons franchouillards très souvent. Mais je suis quand même Charlie parce que je suis pour la liberté d'expression à partir du moment où elle reste dans le cadre de la loi.
Est-ce que vous comprenez pourquoi les ados vous disent ça, en les rencontrant ?
Parce qu'ils vivent dans un monde qui est assez clos. Et en fait, au plus vous êtes dans un monde homogène, au plus vous avez tendance à devenir con. Ça vaut pour tout le monde. Et donc, l'ouverture vous confronte à des gens qui ne pensent pas comme vous et ça vous oblige à devenir, à réfléchir un peu plus. Donc, je peux entendre ce qu'ils disent. Maintenant, me dire que des gens qui ont dessiné Mahomet méritent de se faire assassiner, non. Il y a un lecteur un jour qui m'est tombé dessus là, pour ça, qui m'a dit « Oui, mais les dessinateurs de Charlie avaient provoqué leurs assassins. » Et je lui ai répondu « Mais me dire ça, c'est un peu comme dire qu'une fille en mini-jupe a provoqué son violeur. » C'est pas la fille en mini-jupe qui a un problème, c'est le violeur. »
Et puis c'est vrai que les ados, ben, parfois, ils écoutent aussi ce genre de sketch.
Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Oui, jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que t'es ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine d'un antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Hein, donc toi, ça te fait marrer. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif, le mec avait une kippa. Hein, donc, moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais, il est en liberté, lui, ce juif. Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, c'est... Le mec était terrorisé. Non, calme-toi.
C'est Dieudonné qu'on a entendu très souvent, entre autres avec ce sketch. Et il vous énerve, Dieudonné?
Non, il m'énerve pas, il me navre. C'est différent. Je pense que moi, quand j'entends des sketchs comme ça, ce qui me fait un peu peur, c'est que les gens sortent de là galvanisés en disant « je peux casser du juif ». Je ne suis pas juif. À chaque fois que je dessine sur le Proche-Orient, je me fais en général traiter d'antisioniste au mieux, d'antisémite au pire. Ça, j'ai l'habitude. Mais s'en prendre aux juifs en tant que juif, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire qu'on peut critiquer les croyances des gens. Mais là, à partir du moment où on est né juif, dans ce que dit Dieudonné, on est forcément coupable, entre guillemets. Et c'est ça que je trouve dangereux. Et quand on fait de la satire, ce que fait Dieudonné, moi, j'estime qu'il faut faire attention à ne pas semer la haine. Alors, on me dirait ça quand je dis ça. Quand j'étais dans les écoles en Seine-Saint-Denis, ils me disent « Ah oui, monsieur, mais il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi on peut se moquer des musulmans et pas des juifs ?» Je ne me moque jamais des musulmans en tant que musulmans. Je peux me moquer ou en tout cas critiquer les croyances des gens. Mais je ne vais pas me moquer de quelqu'un parce qu'il est né comme ça ou de quelque part. C'est aussi le problème du nationalisme. Le nationalisme part du principe que puisqu'on est né quelque part, on est forcément comme ça pour la vie et ça nous rend supérieur ou inférieur à notre voisin qui est né ailleurs. C'est pour ça que je déteste le nationalisme. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand j'entends des sketchs de Dieudonné, parce qu'il s'en prend à une communauté et pas aux autres. Et je pense que ça sème la haine plutôt que d'essayer de semer un petit peu d'espérance. Parce que l'humour est là pour mettre du recul par rapport à la vie et pour essayer de rendre cette vie un peu plus supportable. Je ne suis pas certain que ce soit son cas dans des sketchs pareils.
Pourquoi dans les années 80, un bonhomme que vous adorez, des proches, on va l'écouter dans quelques instants, quand il disait « on me dit que des juifs sont présents dans la salle », pourquoi c'était différent cette époque-là?
C'est une bonne question, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y avait, le communautarisme était moins exacerbé qu'aujourd'hui. Moi, je me souviens d'une phrase fantastique de Georges Bernanos, et je l'avais entendu citée par Robert Benichou, je crois qu'il est juif aussi, et Bernanos disait « Hitler a déshonoré l'antisémitisme ». Et c'était une phrase qui était assez forte, mais qui avait du recul, mais qui ne s'en prenait pas aux juifs en tant que tels, je pense en tout cas. Et dans le cadre des proches, tiraient sur tout ce qui bougeait. Ils ne tiraient pas uniquement sur les juifs, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Et c'est ce qui faisait que c'était pertinent et intéressant. Et je ne pense pas, quand on sortait d'un spectacle de des proches, on était galvanisé par la haine du juif. Je ne pense pas.
La première, jusqu'à 17h30.
Sérieux délire.
Cédric Gauthier.
Nicolas Vado, vous êtes notre invité dans Sérieux délire. On vient de parler de Dieudonné. Vous aviez envie d'écouter Alex Vizorek. Alors j'ai cherché un petit peu et je me suis dit justement une réponse peut-être à Dieudonné, en tout cas sur la thématique, ça pourrait être ceci.
Bonjour Mehdi, bonjour Bertrand, bonjour Christine Defraigne.
Ah, dites, écoutez, moi, je parlais de la justice, ou du sexisme, c'est une chose, mais moi je suis venue pour Alexis Vizorek et je me disais dans ma voiture, pourvu que ce soit lui,
Alors, c'est votre unique intervention de ce cas, laissez-le travailler, s'il vous plaît. Non, mais je suis content de vous,
vous retrouver.
Ben, bien sûr, je vous ai plus vu depuis votre voyage en Iran.
Vous voyez mes cheveux aujourd'hui.
Le voile.
Voilà. Ça, c'était du sexisme aussi, parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas aller en Iran.
Coupez-lui son micro.
Ça prouve votre ouverture d'esprit vis-à-vis des signes religieux et je peux donc faire face à vous mon coming out théologique. Je la sors, car je mets sur ma tête la passoire. Car depuis peu, Mehdi, je suis devenu pastafariste. Une religion qui me permet, un, de ne plus être un athée insipide pour les autres croyants, et ce qui surtout, deux, me permet d'avoir trouvé un culte plus en phase avec mes conceptions, puisque selon le dogme pastafariste, l'univers a été créé par un monstre invisible en spaghetti après avoir beaucoup trop bu. Et c'est donc l'ivresse du monstre qui explique pourquoi la Terre n'est pas parfaite. Excusez-moi, mais c'est pas moins crédible qu'autre chose. Et rigolez pas, parce que c'est tout à fait vrai. Alors avant toute chose, je voudrais m'opposer fermement au propos de Bart de Wever dans Le Vif. Il avait déclaré, si on fait de la place à l'islam, pourquoi ne pas en faire pour la doctrine du monstre en spaghetti ? Et j'ai été choqué. Moi, je trouvais ça doublement stigmatisant, puisqu'il aurait dû dire, si on fait de la place pour les religions, pourquoi pas pour celle du monstre en spaghetti ? Hein, ma croyance n'étant pas moins importante que celle des autres autour de cette table. Moi, je respecte toutes les croyances. Autour de cette table, il y en a qui croient en Charles Michel. Eh bien, je vous respecte. Et autour de cette table, il y en a qui croient que la première était écouté par des gens, eh ben, même si les chiffres prouvent que non, eh bien, c'est une croyance que je respecte. Je reviens à mon Dieu, on ne
pas
vous donnez
beaucoup,
pas les chiffres.
Est-ce qu'on m'a coupé le micro ou pas, parce que
non, malheureusement, non, on ne l'a pas coupé. Coupez-le, s'il vous plaît, ce micro.
Mais où est la liberté d'expression?
Vous l'avez eu, vous avez eu 10 minutes d'interview.
Laissez-moi ma chance de mettre en valeur ma religion assez permissive par rapport à d'autres. Elle ne m'interdit pas de faire des choses le samedi. On peut dessiner mon Dieu et le Dieu n'a pas envoyé son fils sur Terre pour qu'on lui renvoie cloué. Mais je comprends que vous puissiez croire que les adeptes du pastafariste n'ont pas toutes les neurones cuites al dente. Mais je ne suis pas le seul. Récemment...
Vous prenez la place sur une cheminée, votre truc.
C'est chic. Il y a eu un mariage à Grédoisseau. Et le bourgmestre a fait un rapport à Yann Jambon, expliquant qu'une vingtaine d'invités portaient des passoires sur la tête. C'est sans doute pour ça qu'il en a parlé à Yann Jambon. Autant de passoires en un seul endroit, il aurait pu croire que c'était un barrage de la police antiterroriste. Cela dit, un mariage pastafarien, on peut lancer du riz. Hein, vous voyez que c'est une religion de paix et d'ouverture. Et malgré ça, nous ne sommes pas encore reconnus. Madame Defraigne, en Belgique, mais ça commence. Hein. Alors, je voudrais féliciter les Pays-Bas, car depuis janvier 2016, le pastafarisme est reconnu.
Vous avez une proposition de décret pour qu'on puisse faire une reconnaissance de votre culte. Et aussi,
ça, c'est une vraie
incroyable. Il reste une minute pour le café serré, je rappelle.
Peut-être un peu d'impôts affectés, comme ça, chacun choisira de mettre une partie de ses impôts pour,
de faire une déclaration importante.
Pour le spaghetti. Est-ce qu'on peut l'avoir avec sauce tomate ou carbonara?
Non mais quand même, la Hollande l'a admis, et ça faut dire que c'est peut-être la qualité de la marijuana à Amsterdam qui a pu jouer. D'ailleurs, je sens que vous découvrez un peu tous la religion. Il existe un évangile. Pour nous les croyants, il y a un paradis. C'est véridique. Hein. Le paradis abrite des volcans de bière et des usines de stripteaseurs et stripteaseuses. C'est à peu près Louvain-la-Neuve. Il y a aussi un enfer. Sauf que là, la bière est plate et les stripteaseurs stripteaseuses ont des MST. Enfin, en fait, non, c'est ça Louvain-la-Neuve. Sachez qu'il y a des jours fériés, que le monstre spaghetti a remis au Captain Moïse des tables, des trucs que j'aimerais autant que vous ne fassiez pas, équivalent des tables de la loi. Donc tout ça est important, Bertrand. Je vous sens conquis, et donc c'est l'occasion de ressortir votre passoire de jeunesse, celle que vous utilisiez pour regarder Canal Plus encrypté. En tout cas, je suis content de vous avoir fait mieux connaître cette religion du dieu en spaghetti, car quitte à ce que les religions nous prennent pour des nouilles, autant l'assumer totalement.
C'est un petit miracle, on a dépassé 8 heures juste de 10 secondes.
Oh, merci.
Ça vous fait rire, hein, Nicolas Vado.
Quelle dragueuse, cette Christine Defraigne, quand même, c'est terrible.
Dragueuse ou insupportable. En tout cas, dans cette intervention.
Voilà. Non, mais je trouvais que ça renforçait l'intervention, c'était assez drôle. Non, j'adore Alex. D'abord, c'est un copain à moi, donc c'est un peu du copinage. Mais Alex, c'est quelqu'un qui arrive à sentir la vanne avant tout le monde. Et on a été sur scène pour un truc qui s'appelait Impro Justicia, un spectacle créé par Bruno Coppens, qui était une parodie de procès où c'est la langue française qui était accusée et défendue. Et il y avait un dessinateur de procès, c'était moi. Et donc Alex et d'autres étaient sur scène. Et c'est étonnant de voir comment il arrive à avoir la salle très vite. Et quand j'ai fait On n'est pas rentré, où il y avait énormément d'humoristes, parce qu'il y avait, je pense que Myriam Leroy et moi, qui n'étions pas des gens qui faisions du stand-up, moi j'ai beaucoup appris au contact des gens comme Alex et d'autres, parce qu'ils ont le sens du timing, le sens de la vanne, et en plus dans le cas d'Alex, il y a du fond, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, donc les vannes ne sont jamais gratuites, et c'est pour ça que souvent c'est très drôle. Avec Kroll, on a illustré son bouquin qui s'appelle Chronique en Thalys, et c'était simplement jouissif parce qu'il suffit de prendre ses chroniques et puis les dessins venaient tout seuls.
Alors, vous nous avez demandé aussi de revenir quelques années en arrière avec un extrait de film qui vous fait encore marrer aujourd'hui, et c'est vrai qu'en le revoyant, j'ai ri aussi.
Seulement, le tout venant a été piraté par les bombes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Ça va rajeunir personne.
Elle nous l'a sauvé.
Oui, voilà.
Tiens, vous avez sorti le vitriol?
Pourquoi vous dites ça?
Il y a pourtant l'air honnête.
Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires.
Allez.
Il faut reconnaître. C'est du brutal.
Vous avez raison.